de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2019, et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée, l'arbre suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur, et avant de terminer cette émission, vous allez écouter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers amis, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le 29e Congrès international des notaires encourage les notaires internationaux à se féliciter des progrès de la révolution industrielle 4.0. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, le film comme moyen de promotion industrielle. La Voix de l'Indonésie tient un forum diplomatique sur la diplomatie économique de l'Indonésie sous le deuxième gouvernement du président Joko Widodo. L'Indonésie encourage la ratification de la Convention contre la torture de l'ASEAN. Voici le bulletin complet. La présidente du Centre indonésien d'association des notaires, PPINI, Yualita Widyadari, dans son discours au 29e Congrès international du notaire au JCC Senayan Jakarta, jeudi a déclaré que son parti bien appréciait la mise en œuvre du Congrès car il était organisé pour la première fois en Asie, en Indonésie. Selon lui, avec 17 000 membres notaires dans le monde, l'association notariale internationale et le membre avec le plus grand nombre de notaires au monde. Yualita a déclaré que ce congrès international discuterait également du développement du notaire dans la quille de progrès technologique de la révolution industrielle 4.0.
Kongres kali ini mengusung tiga tema di mana menyangkut keberadaan, peran dan fungsi.
Ce congrès a trois thèmes concernant l'existence du rôle et de la fonction du notaire adhérent au droit civil. Premièrement, la validité des principes notariaux au XXIe siècle. Deuxièmement, la noble relation qui existe entre les notaires et les différents sujets de droit. Troisièmement, la certitude juridique dans la facilité de faire des affaires à l'ère de la révolution industrielle 4.0 qui discutera de l'existence des notaires à l'ère de la numérisation et complètement automatisée. Athanasios Theodorou, le représentant du notaire grec qui a participé au 29e Congrès international du notaire à Jakarta Convention Center de Jakarta, jeudi a félicité l'Indonésie, en particulier l'Association indonésienne des notaires, INI, qui est capable de donner une bonne présentation dans l'espoir que le congrès qui a eu lieu en Indonésie deviendra une référence internationale à l'avenir.
This congress is a reference in the new steps of the
Ce congrès est une référence dans les nouvelles étapes du développement du notariat de l'ère numérique, manuel et personnel. Et ceci est très important pour le développement des sociétés et de continuer à suivre la nouvelle technologie qui est l'élément notarial actuel de la nouvelle ère numérique dans le monde. En outre, auparavant, l'Union internationale des notaires comptait 87 pays membres, mais jeudi, deux nouveaux membres étaient entrés, à savoir du Liban et de la Biélorussie. Le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative, représenté par le député aux relations interinstitutionnelles et régionales, Endah Wahyu Sulistianti, a déclaré que la politique du ministre du tourisme et de l'économie créative ne promouvait pas seulement les films. Selon elle, à l'avenir, la localisation du film, qui est une destination touristique, sera également promue en faisant du film un moyen de promotion industrielle. C'est ce qu'a transmis Endah Wahyu Sulistianti à l'occasion du séminaire national sur la gestion des fonds de tutelle pour les films et la mise en œuvre d'incitation fiscale pour que les films soient concurrentiels et inclusifs à Jakarta récemment. Elle a ajouté que le moyen de le promouvoir est de faire une percée en utilisant une plateforme numérique.
Kebijakan Pak Menteri sekarang yang baru, tidak hanya filmnya yang kita promosikan nantinya.
La politique du ministre est désormais nouvelle, pas seulement le film que nous promouvons plus tard, mais aussi sa localisation en tant que destination touristique. Nous allons donc utiliser le film comme moyen de promotion industrielle. Plus tard, nous faisons la promotion de manière plus percutante, car nous ne pouvons plus nous contenter de nous joindre au festival. Nous devons participer au festival et aussi collaborer avec des distributeurs internationaux dans les films. Maintenant, il existe des plateformes numériques que nous pouvons utiliser. Pendant ce temps, Laksana Trihandoko, responsable de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, a déclaré que les résultats de l'analyse des entrées sorties de la recherche sur les incitations fiscales pour l'industrie cinématographique en Indonésie en 2018, menée par LIPI et l'Agence de l'économie créative, ont montré que l'industrie cinématographique, à la fois en le contexte de la production et de son rôle chez les bénéficiaires d'impôts est relativement insignifiant. Cependant, ce secteur a un fort impact culturel, social et politique, et la partisanerie du gouvernement a un rôle majeur à augmenter la valorisation de cette dimension non monétaire dans l'industrie cinématographique nationale. La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion étrangère de LPPRRI, a organisé pour la 33e fois un forum diplomatique à Jakarta jeudi. Le thème discuté au forum diplomatique cette fois était la diplomatie économique de l'Indonésie dans le deuxième gouvernement du président Joko Widodo. Dans son discours, Agung Susatyo, chef de Voice of Indonesia, a déclaré que ce thème avait été choisi car la diplomatie économique était devenue une politique étrangère sous la seconde administration du président Joko Widodo. Selon lui, l'Indonésie est toujours un marché promoteur avec des avantages supplémentaires en termes de démographie et de population. L'Indonésie a également un certain nombre d'accords commerciaux avec divers pays qui peuvent être élargis. Les conférenciers au forum diplomatique étaient Gustavo Ayares, ambassadeur du Chili en Indonésie, Indra Darmawan, directeur de la facilitation de la promotion régionale du Conseil de coordination des investissements BKPM, Joneri Alimin, chef de la sous-direction de l'économie et du développement, le ministère des Affaires étrangères, et Bima Yudhistira Adinegara, chercheur à l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, INDEF. Le ministère indonésien des Affaires étrangères encourage la ratification de la Convention contre la torture dans les pays de l'ASEAN et dans la région Asie-Pacifique par le séminaire régional sur l'initiative de la Convention contre la torture 2019. Le directeur général de la coopération multilatérale au ministère des Affaires étrangères, Febrian Rudiart à Bali, a déclaré mercredi que l'Indonésie était l'un des initiateurs de la Convention lors d'une réunion à haut niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en 2014. Comme Antara l'a mentionné, le séminaire a duré 3 jours et a invité les pays de l'ASEAN et la région Asie-Pacifique. Ce séminaire vise à accroître la capacité des pays participants à ratifier et à mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce séminaire est un moyen pour les pays participants à la Convention de partager leurs expériences face aux défis, de développer et d'appliquer les principes de la Convention anti-torture dans la législation et le système institutionnel de l'application de la loi nationale.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant La Voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Ce soir, je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Le rôle de l'Indonésie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ». Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont récemment tenu une retraite à Bali. En Indonésie, 26 jusqu'à 27 novembre. Le Vietnam, qui était également membre non permanent de la période 2020-2021 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a participé à cette activité. Ce qui est intéressant, c'est que l'Indonésie cherche avec les Nations Unies une approche qui unifie les perceptions des efforts déployés pour faire face aux problèmes du terrorisme. Le rôle de l'Indonésie et des États-Unis dans la question du terrorisme au Conseil de sécurité des Nations Unies est très central, étant donné que l'Indonésie est le président du Comité des sanctions contre le terrorisme et que les États-Unis sont les principaux intervenants sur la question du terrorisme à la CSNU. La question de la lutte contre le terrorisme est l'un des débats clés dans la mesure où elle sera le thème principal de la présidence indonésienne à la CSNU 2020. L'Indonésie a la confiance de plusieurs comités qui jouent un rôle important au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le leadership et les initiatives de l'Indonésie dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de la prolifération des armes de destruction massive ont également été reconnues et appréciées par les membres du Conseil de sécurité et les États membres de l'ONU. En plus de présider le comité des sanctions 1267, l'ambassadeur Diantransyah Djani, Indonésie, a également été nommé président du comité de résolution de CS 1540 sur la prévention de la prolifération des armes de destruction massive par les acteurs non étatiques. Président du comité de sanctions de résolution de CS 1988 pour les talibans et président suppléant du comité. Comité de sanctions sur le Soudan du Sud et le comité de sanctions de CS sur l'Irak. Pour la première fois, l'Indonésie a entamé la mise en œuvre de la retraite du Conseil de sécurité des Nations Unies, au cours de laquelle les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent discuter de manière informelle dans une atmosphère très positive. C'est un exploit pour l'Indonésie d'encourager le renforcement et la coopération entre les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette retraite, il y a eu une discussion très fluide et ouverte entre les États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 5 membres permanents, et des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des représentants des groupes de réflexion connexes. Nous espérons que ce climat positif instauré pourra se poursuivre dans les discussions et la résolution de diverses questions au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'initiative de l'Indonésie organise la retraite du Conseil de sécurité des Nations Unies conformément à l'engagement pris par l'Indonésie de devenir un facteur de consensus et encourage un vote sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusqu'à présent, l'Indonésie s'est avérée être l'un des pays sur lesquels on fait confiance pour combler les divergences de vues entre les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après la réunion de réflexion initiée par l'Indonésie cette fois, nous espérons certainement que cette initiative aura un impact positif. Pour l'Indonésie, cela montre que son rôle est de plus en plus important dans la politique internationale, politique libre et active à laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies peut faire référence. Chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 29 novembre. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le plan de division palestinienne visant à mettre fin au conflit en Palestine en publiant la résolution numéro 181. Le plan a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies avec 33 acceptations, 13 refus et 10 neutres. Ce plan divise la Palestine en territoires pour juifs et arabes, avec de vastes zones de Jérusalem, y compris Bethléem, sous la surveillance internationale. Les juifs ont conquis la région côtière autour de Tel Aviv, celle du lac de Galilée et celle du désert du Negev. Pendant ce temps, les Arabes obtiennent le reste de la Palestine, y compris une petite enclave Jaffa, au sud de Tel Aviv. Les Juifs occupaient environ 55% de la superficie totale du territoire contre 45% pour les Arabes. Le 29 novembre 1963, l'accident d'avion Trans-Canada DC-8. L'avion qui venait de décoller de Montréal en direction de Toronto s'est écrasé le 29 novembre 1963 et a tué 118 personnes, y compris 7 membres d'équipage. L'incident s'est produit à 6h32 heure locale, à environ 20 milles de l'aéroport international de Montréal, des parties de l'épave de l'avion se seraient étendues jusqu'à 1 km de la route APH. L'avion était apparemment encore en train de brûler 2 heures après son crash. Le 29 novembre 1971, la journée du corps des employés de la République d'Indonésie. Le corps des employés de la République d'Indonésie, Korpri, est une organisation basée en Indonésie et composée de fonctionnaires, d'employés d'entreprises appartenant à l'État, d'entreprises appartenant à une région et de filiales, ainsi que d'appareils gouvernementaux. Le Korpri, créé le 29 novembre 1971 sur le fondement du décret présidentiel numéro 82 de 1971, était un lieu de rassemblement pour tous les employés de la République d'Indonésie. La date de la création de Korpri est commémorée comme le jour Korpri. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby, masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Pour mémoire » chantée par Abdul. Et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique « Modernésie ».
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre « L'intensification de la coopération économique entre l'Indonésie et l'Inde ». Le gouvernement indonésien et indien ont convenu d'encourager le développement de la connectivité et de la coopération économique entre Aceh et les îles Andaman, Nicobar. Conformément à la vision et à l'accord conclu entre le président Joko Widodo et le premier ministre indien Narendra Modi. Pour soutenir ce développement, les deux pays ont organisé la réunion d'affaires afin d'identifier et d'explorer des projets de coopération concrètes dans les domaines de l'infrastructure, de la connectivité, du tourisme, de la pêche et de l'énergie. L'ambassadeur de l'Inde en Indonésie, Pradeep Karawat, à la réunion d'affaires et d'investissement de l'Indonésie et de l'Inde à Jakarta, lundi le 25 novembre, a déclaré qu'il est important de maintenir des relations des deux pays qui ont été établies depuis longtemps et de les concrétiser sous la forme d'une coopération économique concrète mutuellement bénéfique. Selon le projet, en décembre, on organisera une réunion de groupe de travail conjoint sur le développement de la connectivité entre Aceh et les îles Andaman Nicobar. Le groupe de travail conjoint composé de représentants du gouvernement et des entreprises des deux régions fait suite à la signature de l'accord de vision commune sur la coopération maritime dans la région Indo-Pacifique signé par les chefs de gouvernement des deux pays lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Indonésie en mai 2018. Pendant ce temps, à la même occasion, le gouverneur par intérim d'Aceh, Nova Iransia, a souligné l'importance d'investir dans l'augmentation de l'économie Aceh. Selon lui, Aceh est très sûr et propice et sa communauté est ouverte à l'investissement. Il a souligné qu'il a bien accepté la coopération dans le développement de la connectivité d'Aceh et des îles Andaman Nicobar. L'Indonésie et l'Inde sont deux pays maritimes voisins ayant des frontières maritimes avec les plus grandes économies de leurs régions respectives. En 2018, la valeur des investissements indiens en Indonésie est de 82,12 milliards de dollars américains et pour atteindre 100 milliards de dollars américains. La collaboration entre l'Indonésie et l'Inde pour les régions d'Aceh et d'Andaman Nicobar fait partie également des efforts visant à encourager une coopération concrète dans l'Indo-Pacifique, en particulier dans les domaines de la mer et de la connectivité. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Thank you.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson intitulée « Ici dans son poignet » chantée par Daniela. Et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant un magazine culturel intitulé Le tourisme naturel de Gosari, situé à Gresik dans la province de Java Oriental. Dans la région de Gresik, Java Oriental, il existe l'île de Bawean, qui est une destination touristique préférée des touristes. Gresik propose des destinations de tourisme maritime et aussi d'autres attractions naturelles. L'un d'entre eux est le tourisme naturel de Gosari ou Wagos. Le tourisme naturel de Gosari ou Wagos offre de beaux paysages avec des spots photo instagrammables. Il est situé à Gosari, ujung pangkah Gresik, environ 40 km du centre-ville de Gresik. Pour entrer dans cette zone touristique, il vous suffit de payer des frais de stationnement de 3000 rupiah pour les motos et 5000 rupiah pour le véhicule à 4 roues. La destination de tourisme naturel de Gosari ou Wagos est construite sur une superficie de 1500 m2. Où la gestion est effectuée avec les jeunes du village pour l'autonomisation de l'entreprise appartenant à des villages ou BUMDes. Le tourisme naturel de Gosari offre de beaux paysages naturels. Il y a des montagnes calcaires et des terres agricoles gérées par la communauté locale. Vous sentirez la fraîcheur de l'air car il y a beaucoup d'arbres ombragés. Vous pouvez vous détendre et profiter de la fraîcheur et de la beauté naturelle. En plus de pouvoir profiter de sa beauté naturelle, le responsable fournit également des spots photo instagrammables pour ceux qui aiment la photographie. Vous y trouverez des spots photographiques tels que des cases à oiseaux, des sous-stations de boue, des moulins à vent, des maisons à obit et divers concepts de construction à bois. Il y a aussi une piscine située à côté d'une ancienne source relique. Certains anciens sites de patrimoine historique sont situés non loin des sites touristiques, notamment les sites de traitement de la poterie, les anciennes tombes de Tugaran, et la grotte de Butulan située sur la montagne calcaire de Gosari. Chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé Le tourisme naturel de Gosari à Gresik dans la province de Java Oriental.
Memanggilmu, sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi diriku lagi, 'cause I envy you. Dirimu buatku merasa yang terutama, aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia, sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan? Melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I
Merci d'écouter la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était la troisième chanson intitulée « Je t'envie » chantée par Billy Simpson. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Irnésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. Ce soir avec moi Audrey et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Et vous allez écouter le film Human in Oil a été lancé aux Pays-Bas. En pleine campagne noire contre l'industrie indonésienne de l'huile de palme dans les pays de l'Union européenne d'Oxfair, une maison de production néerlandaise a lancé un film intitulé Human in Oil. Le film raconte le bon côté de l'industrie de l'huile de palme en Indonésie, source de subsistance pour les petits agriculteurs de Jambi. Ce film soulève leur point de vue si les pays de l'Union européenne interdisent les importations d'huile de palme en provenance de l'Indonésie. Le film devrait offrir une autre perspective plus humaniste en tant que solution de rechange aux opinions trompeuses formées par diverses parties de l'Union européenne. Pendant ce temps, l'industrie de l'huile de palme est associée à des dommages environnementaux. Par conséquent, dans ce film montre également que la gestion de l'industrie de l'huile de palme en Indonésie est respectueuse de l'environnement et durable. Le film Human in Oil a été lancé au Festival international du film Docfair à Amsterdam, aux Pays-Bas, le vendredi 22 novembre 2019. Le Festival international du film Docfair est un spectacle de documentaires innovants et modernes, organisé depuis 2018. Les films documentaires ont leurs propres spécificités dans le monde du cinéma néerlandais et attire beaucoup d'intérêt du public. Mahendra Siregar, vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, a déclaré lors du lancement du film que jusqu'à la mise en place de ce film, il n'existait aucune compréhension commune de la question de l'huile de palme au niveau mondial. À travers ce film, on espère que les Néerlandais et les Européens pourront étudier, assimiler et interpréter cette question sous un angle différent des idéologies, des opinions et des émotions qui se sont formées dans leur communauté vis-à-vis de l'huile de palme. La réalisation du film Human in Oil du réalisateur Belgin Inal a été initiée par Andika Rutten, un diaspora indonésien aux Pays-Bas. Andika a été inspirée par son expérience de participation aux cours réguliers sur le palmier à l'huile organisé par le ministère indonésien des Affaires étrangères en 2018. Le programme annuel lancé depuis 2017 vise à donner une véritable image de l'industrie indonésienne de l'huile de palme durable. Ce programme, qui a duré 9 jours, a réuni des chercheurs, des activités, de l'environnement et des universitaires de divers pays, y compris de l'Union européenne. Au cours de la visite de terrain de Jambi, les participants ont eu l'occasion d'apprendre, de discuter et de vivre avec les producteurs d'huile de palme locaux. Expérience qui leur a permis de comprendre les valeurs et les points de vue de ces derniers. En outre, le film sera distribué dans le monde entier, y compris par le biais des médias sociaux. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur le film Human in Oil a été lancé aux Pays-Bas. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup et au revoir.
Takkan ku petik hingga akhir masa. masa hidupku.
Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord magazine musical.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Gorontalo, intitulée Tidilo Palopalo, chantée par Loni Berahim et Vemi Dulanimo. Tidilo Palopalo est l'une des danses à Gorontalo. Cette danse est généralement effectuée au palais de Gorontalo, cérémonie de mariage traditionnel des membres de la famille du palais. Mais maintenant, les gens ordinaires ont été autorisés à le faire en fournissant des conditions appelées Mopodunga Lotongu, ou en payant les permissions coutumières, ou bien à date, qui doivent être faites par l'organisateur. Lorsque les futurs mariés doivent remettre une certaine somme d'argent aux détenteurs de la date, conformément aux dispositions coutumières applicables pour être placés à la veille de la nuit d'ornement. En outre, l'argent a été remis à Baitul Mal, en espèces à la mosquée ou à l'institut de culte. La danse Tidilo Polopalo décrit les subtilités du caractère des femmes, de l'hospitalité et de la mise en œuvre des devoirs et des responsabilités qui seront assumées après le mariage. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Tidilo Polopalo, chantée par Loni Berahim et Vemi Dulanimo. Bonne écoute.
Oh!
C'était magazine musical de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Ainsi se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.